Voilà, que Dieu soit béni. Pour toi, la grâce déborde. Pour un Européen, c'est difficile d'accepter le mot grâce. Nous sommes habitués à tout monnayer, tout marchander, tout mériter. On mérite. On cherche à mériter le ciel. Si je fais des bonnes œuvres, si je donne quelque chose pour les œuvres de Dieu, eh bien Dieu me sauvera. C'est pas ça la grâce. Ah, si je fais le bien et si je fais beaucoup de bonnes actions, eh bien je serai sauvé. C'est pas ça la grâce. La grâce, c'est ne rien mériter, mais tout obtenir. C'est difficile, hein? Et ça ne passe pas dans notre mentalité. On veut toujours nous mériter, obtenir, payer. Et Dieu nous dit non, le ciel ne s'achète pas. La bénédiction, la guérison ne s'achète pas. Le bonheur ne s'achète pas. Alors comment faire? Eh bien, crois que Jésus veut te le donner, tout simplement. Et à tous ceux qui le croient, qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et ils vivent et ils connaissent le bonheur. Que Dieu soit béni. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous. Merci à notre frère Lucas pour ses beaux chants. D'ailleurs, tous les chants sont beaux, hein, dès qu'il nous parle de Jésus. J'aimerais lire avec vous dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 7e. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? On est bien ici, hein? Voilà. Luc, chapitre 7. Et le verset premier. Voilà ce que nous pouvons lire. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. C'est simple, je vais expliquer le contexte. Il y a un centenier, c'est-à-dire un gradé romain, donc un étranger, qui est un serviteur malade. Et vous savez qu'à l'époque, un serviteur n'avait pas une grande valeur. Dès qu'un serviteur n'accomplissait plus ce qu'on attendait de lui, on pouvait même avoir droit de vie et de mort sur lui. Du reste, quand on lit l'histoire ancienne, on s'aperçoit qu'il y avait plus d'intérêt pour un animal que pour un esclave et un serviteur. Mais ce centenier, donc étranger romain, j'insiste sur cela, nous verrons pour quelles raisons dans quelques instants, est attaché à son serviteur. Et il a entendu parler de Jésus, que l'on nomme prophète, grand prophète, fils de Dieu, qui fait des miracles. Et cet homme tient son serviteur. Alors, il envoie des hommes auprès de Jésus pour que Jésus vienne guérir son serviteur. Du moins, pour que Jésus le guérisse. Et les gens viennent trouver Jésus en lui disant, viens. Jésus les suit. Et puis, à nouveau, le centenier envoie d'autres serviteurs en disant « Non, ne prends pas la peine de venir jusqu'à moi, je ne suis pas digne. » Vous voyez, nous on veut acheter, je veux être digne, je veux faire des bonnes œuvres pour mériter le ciel. Bonnes œuvres. On fait des œuvres, mais bonnes. Un arbre fruitier qui produit des mauvais fruits, plus il en fera, est-ce que ça changera la nature des fruits? Mais non. Et la Bible nous dit, nous qui sommes accoutumés à faire le mal, comment pouvons-nous faire le bien? C'est pas possible. Il y a toujours un intérêt à l'arrière-plan dans notre être intérieur. Et il dit, non, moi je ne suis pas digne que tu viennes, mais dis un mot. Et c'est là où j'aimerais méditer avec vous. Dis un mot. Un mot. Nous, on en dit beaucoup des mots. Hein. Même pour prêcher, j'en dis beaucoup. Parfois beaucoup trop, peut-être. Un mot. Vous avez remarqué, vous conduisez, il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson. Chauffard ! Un mot. Bon, je ne dis pas ce que ça peut entraîner. Hein. Ou encore, vaut rien. Des mots qui ne sont pas très gentils. Si vous avez fait votre régiment dans les parachutistes, au moment de sauter, on vous dit « go ». C'est pas Gérard, mais c'est « saute, il faut y aller ». Vous voyez, un mot. Et cet homme, ce centenier, était habitué. J'ai fait l'armée, et quand on marche, halte, il faut s'arrêter. Demi-tour, et hop, on fait demi-tour. Ce n'est pas des ordres, messieurs, mais les appeler de telle classe, voulez-vous avoir l'aimable gentillesse de vous arrêter, de faire demi-tour le matin pour vous lever, on vient vous porter des croissants, on vous réveille en musique, etc. Oui, c'est pas la même musique, hein. C'est le clairon qui sonne, et quand il passe, vous avez intérêt à être déjà debout. Non, non, un mot, et les gens comprennent. Nous le savons d'ailleurs, dites-moi. Ça vous est pas arrivé que quelqu'un vous réponde avec colère, un mot, et ça vous a blessé. Ou encore, un mot de reproche. Alors que vous étiez rempli d'une bonne intention, puis on vous a dit un mot de reproche. Vous êtes isolé. Il y a des larmes qui ont coulé. Un mot. Je dirais, un mot... Il réfléchit, un mot d'impatience, le matin de bonheur et toute votre journée. Elle n'est pas très très bien. Un mot. N'est-il pas vrai? Nous l'avons tous expérimenté. Par contre, ça peut être un mot tellement différent. Vous rentrez quelque part, vous voyez quelqu'un, bonjour, avec un sourire, ça peut changer. La personne s'était réveillée sur le pied gauche, comme on dit, ou s'était levée sur le pied gauche. Elle n'était pas dans un bon état, mais vous êtes venu avec un beau sourire. Bonjour. Ouh, ça a détendu l'atmosphère. Nous avons vécu cela avec mon gendre. Mon gendre est pasteur, hein, en région toulousaine. Et nous allions tous les deux, c'était dans la région parisienne. Non, il est pasteur dans la région toulousaine. Hein, mais nous étions dans la région parisienne et il devait faire revaloriser ses permis de poids lourd, etc. Et nous étions là avec notre billet pour attendre qu'on nous invite, qu'un fonctionnaire nous invite à venir avec tous les papiers. Et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs guichets et il y avait une dame qui était sur notre gauche. Waouh ! Ça parlait sèchement, durement. C'était épineux chaque fois que quelqu'un se présentait à son guichet. Intérieurement, je me disais, si on pouvait éviter de passer là, ce serait bien. Voilà ce que je me disais. Je me souviens parce que c'était une antillaise. Elles ne sont pas toutes comme ça. Hein. Que Dieu soit béni. Mais alors, juste au moment où notre numéro s'affiche avec mon gendre Daniel, juste à ce moment-là, c'était à la sous-préfecture, à la préfecture d'Antony, il y a une chrétienne, et je ne savais même pas qu'elle travaillait là, une chrétienne de notre église qui passe, elle nous voit, elle s'arrête. C'était la dame que je ne voulais pas voir, ou avoir, qui nous appelle à notre numéro. Elle passe, elle se connaissait, et nous voyons, dit, ça, ce sont mes pasteurs. Et quand nous sommes arrivés, nous lui avons dit bonjour avec un grand sourire. Je ne sais pas si vous connaissez mon gendre, mais il a un grand sourire, il a la vie du Seigneur, et nous aussi. Elle nous a reçus avec une gentillesse. L'atmosphère était différente. Je pense que ceux qui sont passés après, ils ont pu nous remercier, hein, les remercier derrière quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle avait des problèmes, personne n'en savait. Et comme elle n'était pas bien, eh bien, elle répondait par réaction. Et vous savez comment sont les réactions, ça s'enchaîne, on ne sait plus où on s'arrête. Mais là, on a pu parler avec elle et on a même parlé du Seigneur. C'est formidable. Un mot peut changer toute une journée. Un bonjour, vous en souviendrez. simplement un sourire de sympathie. Un sourire. Je l'ai vu ça dans un hôpital. Quelqu'un qui était là, et je l'ai su que par la suite, c'est une jeune femme qui avait essayé de se suicider. Et la chrétienne qui était avec moi, une jeune fille, l'a regardée, lui a fait un sourire. Et l'autre l'a regardée comme si ses yeux lui disaient, mais venez me secourir, elle y est allée. Elle lui a rendu témoignage. Et ensuite, elle m'a appelé pour prier pour elle. Vous voyez, simplement un geste, un regard peut changer quelque chose. C'est comme un mot encourageant. Quand l'enfant revient de l'école. Alors, combien tu as eu aujourd'hui? 14. Oh, tu aurais pu mieux faire. Non? Ça ne s'est jamais dit, ça? Ou alors, waouh, c'est formidable, mais je sais que tu peux encore mieux. Vous voyez, un mot, il peut changer tellement les choses. Un mot. Eh bien, ce centenier dit, dis un mot, Seigneur, un mot. Il a entendu parler de Jésus. Il croit que Jésus a des pouvoirs extraordinaires. Or, pour lui, un mot de Jésus suffira. Sa foi, elle est profonde, au point où Jésus, faisant allusion à la foi de ce centenier, dira, même en Israël, n'oubliez pas, le centenier était étranger. Il était étranger. C'était un Romain. Donc, il ne connaissait peut-être pas l'histoire d'Israël comme les Israélites pouvaient la connaître. Il ne pouvait pas savoir que si Israël existait, ce n'était que par les miracles de Dieu. Mais néanmoins, il croit que s'il est Dieu, eh bien, un mot suffit pour que son serviteur soit guéri. Et j'aimerais vous dire, les mots, ils ont une signification. Et l'Évangile nous dit que souvent le Seigneur n'a donné qu'un mot. Les disciples sont sur la barque. Il fait nuit. La tempête se lève. Et Jésus vient sur eux marchant sur les eaux. Et ils ont peur. Ils pensent que c'est un fantôme. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors Pierre, ah l'apôtre Pierre, t'es fougueux cet homme-là, hein, mais je l'aime bien Pierre. Ben, si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Et qu'elle lui dit Jésus, viens. Ah. Il y a le bord à franchir, hein. Et il enjambe, et il marche sur l'eau. Simplement un mot, viens. Et un mot de Jésus, tu peux marcher sur tes difficultés. Tu peux marcher sur tes épreuves. Tu peux marcher sur les problèmes que tu rencontres, c'est-à-dire t'élever au-dessus d'eux. Non pas qu'ils t'enfoncent, non pas que tu t'enfonces et que tu sois dans la déprime, mais que tu puisses dominer parce que Jésus t'aura dit un mot. Je pense, quand Jésus arrive devant le tombeau de quelqu'un qu'il aimait, une famille où il aimait bien placer, deux sœurs et un frère, Marthe, Marie et Lazare, Lazare est mort. Et on le conduit devant le tombeau de Lazare. Et Jésus qui a demandé que l'on roule la pierre devant le tombeau, c'est une manière d'agir au Moyen-Orient. Souvent ce sont des grottes creusées ou naturelles, et puis on met une pierre devant, rouler la pierre. La pierre est roulée, et la Bible nous dit que Jésus, s'adressant à Lazare, lui dira « Sors !» Et Lazare est sorti. Il ne faut pas exagérer, monsieur Galifo. C'est tellement vrai que même les ennemis de Jésus, c'est-à-dire les gens religieux, pharisiens, sadducéens, etc., voulaient se débarrasser de Jésus, mais voulaient aussi se débarrasser de Lazare parce qu'il était un témoin trop gênant de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Ça faisait 4 jours qu'il était enterré. Sors ! Et le mort est sorti. Un mot ! Vous comprenez pourquoi Jésus, c'est une parenthèse, il dit dans vos prières, ne multipliez pas de vaines paroles. Un mot, dis un mot. Je pense à Jésus, dans la barque cette fois-ci avec ses disciples, et puis lui, il se repose à l'arrière de la barque, il dort, et tout d'un coup, un vent violent se lève, la tempête se manifeste. Alors, Ils ont peur, pourtant ce sont des marins pêcheurs, ils ont l'habitude. La barque est prête à enfoncer et alors ils vont le réveiller. Tu n'as pas peur ? Il se lève, il va devant et puis il dit au vent, silence ! Le vent se calme, il regarde les flots et il dit, tais-toi. La tempête est calmée. Un mot de Jésus. Un mot. C'est pas beaucoup un mot. Vous savez qu'à nous, ça nous est difficile de dire qu'un mot. Hein ? Une autre parenthèse que j'ouvre. Dans plusieurs églises, nous avons été avec Colette pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir un moment de prière de louange. Je disais, nous allons avoir un moment de prière collective et j'aimerais que vous ne disiez qu'une phrase. C'est-à-dire, bien vous allez prier en disant « Je te loue parce que tu m'aimes ». Un autre va dire « Je te loue parce que tu réponds prière. Je te loue parce que tu es vivant. Je te loue parce que tu es présent. » Simplement une phrase. Essayez de le faire. Ah, les gens, ils commençaient par une phrase, mais c'est difficile. Un mot de Jésus est suffisant pour tout cela. Quand on lui amène un sourd, il dira un mot. Ephata, ça veut dire ouvre-toi, les oreilles débouchées. Un mot. Je pense, on conduit Jésus à un chef, chez un chef de synagogue dont la fille est morte, la fille de Jaïrus. Il va rentrer, il fait sortir tout le monde. Et puis là, il va dire un seul mot, qui est peut-être bien long, c'est vrai, Talita Kumi. Ça veut dire, lève-toi, jeune fille, un mot. Et la morte se redresse et lui sert à manger. Un mot venant de Jésus. Mais où c'est que vous voulez en venir, frère Galifo ? Simplement un mot de Jésus. Vous avez entendu parler de Frédéric le Grand, roi de Prusse ou empereur de Prusse, je ne me souviens plus, qui, par un hiver assez rigoureux, est accosté par un misérable qui est dans le besoin et il le suit pour essayer d'avoir quelque chose de sa part parce que l'hiver est rude. Et alors tout d'un coup Frédéric le Grand fait arrêter la calèche dans laquelle il se trouve et il le regarde et lui dit deux mots. Vous savez ce qu'a répondu le misérable? Faim, froid. Vous savez ce qu'a répondu Alexandre le Grand? Pain, charbon. Et il a donné des ordres pour qu'on lui livre du pain et qu'on lui livre du charbon. Deux mots. Ça, c'est l'histoire. Vous voyez que souvent, on veut faire un tas de choses pour, je ne sais pas trop pourquoi, pour enjoliver peut-être. Je ne sais pas nager. Ça m'est arrivé quand même d'aller sur les océans et les mers. Imaginez-vous que je tombe de l'embarcation dans l'océan Pacifique et puis que je sois en train de me débattre et que je vois une barque qui arrive avec quelqu'un qui m'a empêché, est-ce que je vais lui dire « S'il vous plaît, monsieur, vous qui avez appris à nager, vous qui avez appris à naviguer, vous qui êtes présent maintenant, est-ce que vous pourriez avoir un tout petit peu compassion de moi ?» Je n'aurais même pas le temps de dire tout ça parce que l'eau elle rentrerait, je coulerais. Je lui dirais « Au secours !» Vous êtes d'accord avec moi ? Pas plus, mais ça suffirait pour qu'il se jette à l'eau ou qu'il me lance une bouée pour me sauver. Un mot. Vous savez ce que ça veut dire, un mot ? Un mot, ça révèle qu'il s'intéresse à nous. Si je dis au Seigneur, dis un mot, ça veut dire que je m'attends à quelque chose, qu'il s'intéresse à moi. Je pense à cette femme qui est étrangère, elle aussi. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle a une fille qu'elle a laissée à la maison, qui est tourmentée par des puissances mauvaises, par des démons. Et elle vient pour demander à Jésus la délivrance de sa fille. Mais les disciples la renvoient. Elle fait un grand tour, elle se présente devant Jésus. Et Jésus, au premier abord, ne va pas accéder à sa demande. Mais elle continue parce qu'elle sait que Jésus est obligé de s'intéresser à elle. Même si elle est étrangère. Et moi, je sais une chose, c'est que Jésus est obligé de s'intéresser à vous. Je dis bien, il est obligé. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il s'intéressait à nous. Je ne vais pas détailler maintenant, mais si que de notre galaxie, je ne parle pas des milliards de galaxies qu'il y a, mais que de notre galaxie, on devait donner un schéma. Le soleil se trouverait là, sous la forme à peu près d'un ballon comme cela, et 27 mètres plus loin, notre Terre serait représentée par une bille. Les garçons, hein, quand on joue aux billes, même les filles d'ailleurs, c'est pas beaucoup. Et le fond de la galaxie serait à je ne sais plus combien de centaines de kilomètres. Eh bien, c'est Dieu qui a créé cela et il voit cette petite bille qu'est la Terre. Et sur cette Terre où nous sommes, il nous voit chacun. Et c'est pour cette petite Terre qu'il a envoyé son Fils. Il est obligé, maintenant qu'il l'a fait, de s'intéresser à chacun d'entre nous. Et il le révèle. Et il va répondre, il va accéder à la prière de cette femme. « Qu'est-ce que tu veux faire ? Que tu sauves ma fille ?» Et Jésus va lui dire, « Va, ta fille est délivrée. » Un mot, ça révèle qu'il s'intéresse à nous. Et moi, j'aimerais vous dire, et je vous donnerai le mot tout à l'heure, il s'intéresse à vous, à chacun. Un mot, ça prouve qu'il veut faire ce que vous lui demandez. Un jour, un lépreux s'approche de Jésus, et vous savez que les lépreux ne pouvaient pas s'approcher des gens qui étaient saints dans leur corps. Ils devaient prévenir qu'ils arrivaient, et on ne devait pas les toucher. Et il s'approche de Jésus et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Que fera Jésus ? « Bien sûr que je le veux. Sois pur !» Un mot signifie qu'il veut le faire. Sois pur. Oui, je le veux. Je veux te purifier. Un mot de Jésus, ça veut dire qu'il veut répondre, accéder à ta demande, à ta supplication, à ta prière, à ton besoin. Il le veut. Un mot, ça veut dire qu'il est la réponse. Et je dirais, il est la seule réponse possible à tous nos besoins. Un mot. Mais un mot prouve qu'il a de l'autorité, et c'est lui-même qui le dira. Lorsque crucifié et ressuscité, au moment où il va être enlevé le jour de l'ascension, il dira à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. » Tout pouvoir, il a toute autorité. Donc quand il dit un mot, dans le ciel, les ordres sont donnés. Sous la terre, dans le fief de Satan, rien ne peut empêcher l'autorité de Jésus de s'accomplir. Et sur la terre, ce n'est pas les hommes qui vont empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir, pas du tout. Un mot de Jésus. Vous savez qu'on dit l'expression « prendre quelqu'un au mot ». Ça veut dire quoi ? Eh bien, tu as dit ceci, je te prends au mot. Puisque tu l'as dit, eh bien, fais-le. Il y a quelques années de cela, c'était dans le Tarn-et-Garonne, nous avions une dame, nous sommes allés d'ailleurs la voir avec un chrétien, nous avions une dame qui nous a sollicité pour venir prier. Il faut dire que sa belle-sœur était chrétienne, elle travaillait à la campagne, elle était chrétienne, elle avait été guérie d'un cancer généralisé, à Lacaplette-d'Urfort dans le Tarn-et-Garonne. Et puis, cette belle-sœur qui, elle, n'était pas croyante, oh, enfin croyante, elle l'était, mais... comme souvent les gens disent, croyante mais pas pratiquante. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin. Et elle avait eu un deuxième enfant, elle avait eu son accouchement depuis 15 jours, elle était rentrée chez elle, et depuis 15 jours, ses reins étaient bloqués. Elle souffrait, elle avait mal, et elle était alitée. Et alors, comme sa belle-sœur qui avait été guérie, nous avait téléphoné, nous sommes allés la voir avec ce frère. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu qu'elle souffrait, son visage était marqué par des signes de souffrance, elle était dans son lit. Alors j'ai lu ce texte très court du reste de la parole de Dieu dans l'épître aux Hébreux. Jésus-Christ est le même hier, vous connaissez la suite ? Aujourd'hui et éternellement. Mais quand je suis arrivé au mot aujourd'hui, alors je reprends, je lui ai dit Jésus-Christ est le même hier, Aujourd'hui, elle m'a arrêté, elle m'a dit, s'il m'aime aujourd'hui, priez. J'ai même pas eu le temps de dire éternellement. Et voyant qu'elle souffrait avec le frère, je me souviens, c'était Claude qui m'avait accompagné, nous avons prié. Et puis elle souffrait, nous sommes partis. Le lendemain, je téléphone. À l'époque, il n'y avait pas l'automatisme comme nous avons. Je me rappelle encore du numéro de téléphone, le 2 à la Capelle d'Urfort. Je téléphone et je tombe sur la belle-sœur qui, elle, était chrétienne. Alors je lui demande comment elle va, la personne pour laquelle nous avons prié. Elle me dit, frère, elle a été guérie, elle se levait. Et d'ailleurs, je ne peux même pas vous l'appeler, elle est en train de courir après sa petite fille aînée qui avait fait une bêtise. Elle qui avait les reins bloqués. Simplement un mot pour elle. Il est le même. Aujourd'hui, c'est bon, c'est suffisant. Quelle foi! Ça prouve que non seulement on peut le prendre au mot, tu le dis Seigneur, mais je le crois. Mais je voudrais dire encore, il a le dernier mot. À savoir le dernier mot, hein? J'en sais quelque chose avec mes filles. C'est pas toutes les filles, hein? Il y en a qui me regardent et disent, oh là là, qu'est-ce qu'il dit, notre frère, là? Pour avoir le dernier mot. Mais c'est pareil entre tous, hein, quand on veut avoir le dernier mot. Hein. C'est pas évident. Bon, ben, tu as raison, mais j'ai pas tort. Comme ça, tout le monde est d'accord. C'est comme ça que nous terminons. Mais avoir le dernier mot. Ben, je vais vous dire, moi, qui a le dernier mot dans ce monde? Qui a le dernier mot pour nos problèmes? Qui? Celui qu'on appelle Jésus de Nazareth, qui est venu du ciel, qui a quitté la gloire, qui a quitté la présence de son Père, qui est venu sur notre terre de misère, de souffrance, de révolte, de ténèbres, pour faire resplendir la gloire de Dieu au travers de son message, pour faire resplendir l'amour de Dieu au travers de sa compassion vis-à-vis et envers les gens, pour faire resplendir la sainteté de Dieu au travers de sa personne, mais aussi la miséricorde, le pardon. La Bible nous dit, il s'est laissé arrêter, il s'est laissé juger, condamner, il s'est laissé frapper, il s'est laissé clouer sur la croix, il s'est laissé crucifier. Mais une des dernières paroles qu'il a eues, sinon que l'avant-dernière, c'était un mot. Vous savez quel est ce mot? Télestai. Ça veut dire tout est accompli. C'est le dernier mot de Jésus. Tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est accompli pour que ta dette soit payée, pour que tu sois acquitté. Tout est accompli pour que la porte du ciel te soit ouverte. C'est Jésus qui, sur la croix, meurt à notre place et il paie la dette. Alors, payé, acquitté. Quand vous allez dans un endroit, chez un commerçant, au restaurant ou autre, vous payez une facture et vous savez ce qu'ils font souvent? Ils demandent votre code postal et puis ils mettent un tampon. Qu'est-ce qu'il y a sur le tampon? Payé. Acquitté. C'est-à-dire que si vous sortez du magasin avec votre matériel, vos marchandises, l'agent de sécurité, de surveillance vous regarde et sortez votre facture, payé. Il n'y a rien à dire. Jésus-Christ a payé pour nous. Il n'était pas obligé de payer. De droit, il avait autorité. C'est lui notre Créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes faits à son image. Corps, âme et esprit. Nous lui ressemblons dans notre liberté, dans nos inventions, dans un tas de choses. Mais le diable nous a volés. Le diable s'est accaparé de nos vies. Il s'est accaparé de nos personnes, de nos corps, de nos âmes, de nos souffrances. Et quand je dis nos âmes, je ne rentre pas trop profondément dans les choses spirites. Mais il s'est accaparé de tout cela. Et de droit, Dieu pourrait dire, je le revendique, je le prends. mais Dieu ne le fait pas. Non, il fait autre chose. Je vais donner un exemple. C'est une montre, je ne sais pas quelle valeur elle a. Je ne pense pas qu'elle ait une grande valeur matérielle, mais elle m'a été offerte. Souvent, c'est les membres de nos familles qui nous les offrent. Imaginez-vous, on me vole ma montre. C'est regrettable. Et puis, un jour, je vais chez quelqu'un, j'aperçois ma montre. Il y a même mes initiales. GG, pas Gérard Gaud, mais Guy Galifot. Je revendique ma montre. La personne me dit, ah non, elle est à moi. Mais je la veux, parce qu'elle a une valeur sentimentale. Elle a une valeur à mes yeux. Alors, je la veux à tout prix. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la repayer. Pourtant, de droit, elle me revient. Mais je la veux tellement, parce que je l'aime. Vous savez qu'il nous est arrivé une aventure semblable. Quand nous nous sommes mariés avec ma femme, elle a perdu son alliance. Vous imaginez un petit peu? Mais elle était sûre qu'elle allait la retrouver. Alors entre-temps, sa mère lui a offert une autre alliance. Peut-être que matériellement, elle n'avait plus de valeur, j'en sais rien. Mais ma femme, ce qu'elle voulait, c'était l'alliance que je lui avais passée au doigt le jour du mariage, il y a plus de 49 ans. C'était ça. C'était pas le fait qu'elle soit ciselée ou autre. D'ailleurs, celle que sa maman lui a donnée par la suite avait été travaillée un petit peu. Alors que la mienne, elle était beaucoup plus simple. Mais celle qu'elle voulait, c'était la mienne. Et je suis convaincu que si elle l'avait revue chez un marchand, elle aurait voulu celle-là. Parce que ça représentait quelque chose de particulier, de personnel, de sentimental. Elle l'a retrouvée un an après. Dans un poulailler, ou près d'un poulailler. Voilà, ça c'est la petite anecdote. Mais cette alliance, ah, pour elle, c'était tout, et je le comprends. Eh bien, Jésus a payé le prix pour que nous revenions vers lui. Et pour qu'il le fasse, c'est la preuve de son amour. Tout est acquitté. Tout. Il a payé parce qu'il nous aime. De par droit, de par autorité, nous sommes des créatures de Dieu. Mais parce que le diable nous a volés, il ne veut rien avoir à faire avec le diable. Il ne veut pas revoler le diable. Le diable est voleur, mais pas Dieu. Il fallait payer le prix, payer la rançon. Et c'est Jésus qui va le faire. Parce qu'il nous aime. Et sur la croix, une des dernières paroles, c'est Télestai. Autrement dit, tout est accompli. Pour que tu saches que Dieu t'aime. Pour que tu saches que Dieu t'ouvre le ciel. Pour que tu saches que Dieu pardonne tes péchés. Pour que tu saches que rien ne pourra plus te séparer de l'amour de Dieu si tu l'acceptes dans ta vie et dans ton cœur. Télestai. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Et aujourd'hui, pourquoi continuer à vivre dans la misère, dans la souffrance, pour reprendre l'image d'une jeune fille qui s'est convertie? Elle avait été élevée dans un foyer chrétien, il y avait eu pas mal de problèmes, de soucis, et puis à l'âge de l'adolescence, la révolte, etc., elle avait commencé à boire, elle avait commencé à prendre de la drogue, etc., et un jour, elle était assise sur le bord d'un trottoir. Elle regarde le caniveau, elle se dit « Non, je m'excuse du mot que je vais employer, mais c'est son prénom, elle le sait d'ailleurs. » Elle dit « Non, Anaëlle, tu ne vas pas terminer dans un caniveau, tu ne vas pas terminer ta vie comme cela, il faut que tu reviennes vers Dieu. » Eh bien, j'aimerais te dire, ne reste pas sur le bord du caniveau, ne reste pas sur le péché, ne reste pas dans tes passions, ne reste pas dans tes frustrations, ne reste pas dans tes malaises, ne reste pas dans ton malheur, ne reste pas dans ta révolte, ne reste pas avec de tels sentiments. Tout est accompli pour que ta vie soit changée. Tout est accompli pour que tu domines. Tout est accompli pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Tout est accompli pour que tu commences une vie nouvelle. Tout est accompli. C'est le dernier mot de Dieu. C'est pas formidable ça? Un mot, et bien il l'a dit. Et il le dit devant Satan. Et le jour où vous dites oui à Jésus, j'ai compris, tu as tout accompli, je viens à toi, Satan ne peut plus rien. Il ne peut plus rien. La Bible nous dit, nous avons même autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Le dernier mot, c'est lui qui l'a. J'aimerais partager le témoignage de cette femme qui, vivant au Congo, alors lequel c'est, je ne m'en souviens plus si c'est Congo, Brazza ou Kinshasa, peu importe. Croyante, dans sa religion, comme beaucoup, et elle est invitée à une église, dans une église évangélique. Elle y va. Ah, le Seigneur a touché son cœur, le message, elle l'a reçu avec beaucoup de foi, d'émotion, et ce soir, la première réunion, elle donne sa vie à Jésus. Formidable. Elle rentre chez elle, heureuse de partager sa joie avec son mari, en premier, qui est médecin. Loin de partager sa joie, le mari s'est mis en colère. Ce qui a déclenché une dispute, et il a dit à sa femme, tu choisis ou ton Jésus et l'Église, ou moi. Elle lui a dit, écoute, tu sais que je t'aime, mais je vais te rencontrer Jésus qui m'a rempli de son amour, je veux le suivre. Et il lui a dit, bien, tu quittes la maison. Il est allé fermer la chambre où elle dormait, à clé. Il a pris la clé et lui a dit, tu rentreras dans ta chambre quand tu auras la clé. Et il l'a pris sur lui et il l'a mise dehors. C'était le soir. Elle est allée chez sa sœur, chrétienne, et puis elle a passé la nuit là-bas, une moitié de nuit à dormir, mais une moitié de nuit à prier, pensant à son mari, pensant à ses enfants, et elle a pleuré, elle a répandu son âme devant Dieu, elle a dit, mais Seigneur, j'ai rien fait de mal, tu le vois. Et elle a prié. Et le lendemain matin, un voisin de sa sœur, chez qui donc elle s'était rendue, avait passé une partie de la matinée à la pêche, et il revient, il avait fait une bonne pêche. Et il revient, et il apporte un poisson qu'il avait pêché. Alors, en Afrique, les gens connaissent ce nom, c'est le capitaine. C'est souvent le nom du poisson que l'on donne, qui est quand même un gros poisson. Alors, pour qu'il le mange, bien sûr, et la nouvelle convertie et sa sœur chrétienne ont commencé à prendre le poisson, à enlever les écailles, et puis l'ont ouvert. Et dedans, il y avait une clé. Alors, il regarde la clé, et la nouvelle convertie dit, mais c'est pas possible ça, elle ressemble à la clé de ma chambre. Elle nettoie la clé, elle va chez elle, il y avait le mari. Elle entre dans la maison, elle va à sa chambre, elle ouvre la porte de la chambre, c'était la clé de la porte de la chambre. Le mari la regarde, il fait, comment tu as cette clé? Alors elle lui explique, je me suis réfugié chez ma sœur, ce matin un voisin de ma sœur nous a apporté un poisson pour que nous puissions manger avec. Et il a dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Hier soir, pour plus que tu reviennes, je suis allé à la rivière et j'ai jeté la clé. Et je savais que tu ne reviendrais plus. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a eu, parce que cet homme s'est converti. Et il est médecin. Et il est converti. Le dernier mot lui appartient. Parce qu'il l'a dit, tout est accompli. Pour faire taire les voix de l'ennemi qui viennent te troubler, te tourmenter. Pour faire taire les puissances infernales qui voudraient te ramener vers le mal. Tout est accompli pour que tu puisses dominer. Tout est accompli pour que tu puisses savoir que tu as la vie éternelle, toi qui as reçu Jésus. Tout est accompli, c'est le dernier mot de Dieu. Il n'y a rien à rajouter. Tout est accompli pour que tu croies en ta guérison. En ta guérison. Nous avons, il y a 15 jours, une jeune fille, une belle jeune fille, grande jeune fille brésilienne qui est venue. Elle va se marier à la fin de l'année. Et je les aime beaucoup tous les deux avec son fiancé. Elle est venue, elle a un problème à une jambe. Non seulement un problème, elle ne pouvait pas marcher, sa jambe était tout enflée depuis le pied jusqu'en haut. Et malgré les médicaments pris, etc., elle souffrait, elle boitait, et je l'ai même vue avec les traits tirés, elle souffrait. Et là, pendant un moment de visitation de Dieu, a senti quelque chose qui se passait. La douleur est partie instantanément et les gens l'ont vu, la jambe commençait à désenfler. Tout est accompli sur la croix du calvaire pour que tu sois guéri, pour que tu sois pardonné, pour que tu deviennes enfant de Dieu, pour que ta vie soit transformée. Tout est accompli, c'est le mot de Dieu, je dirais même mieux, c'est le dernier mot. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas accepter cette simple parole ? Dis un mot, Seigneur. Mais il l'a dit. Il l'a prononcé il y a 2000 ans. Et il est toujours le même, il est valable. C'est accompli. C'est fait. C'est payé. C'est acquitté. Quelqu'un a pris tout ça sur lui-même. Maintenant, je suis libre. Et il l'a fait parce qu'il nous aime. Il t'aime. Comme il m'aime. Comme il nous aime chacun. Il t'aime. Tout est accompli. Qu'est-ce que tu dois ajouter ? Rien. Vous achetez quelque chose, au moment de payer, on vous dit c'est payé. Qu'est-ce que vous allez dire ? Ah non, je veux payer quand même ? Vous avez payé deux fois ? Enfin, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait. Sachant que le portefeuille, c'est souvent l'idole de bien des personnes. Tout payé ? Ah ben c'est formidable. Eh bien oui, c'est formidable. C'est formidable ce que Jésus a fait. C'est extraordinaire ce que Jésus a fait. On ne peut pas même le réaliser, le comprendre. On peut le recevoir, le croire, le vivre. Mais c'est extraordinaire. Il a tout accompli. Que Dieu soit béni. Tout est accompli. Vis-à-vis de son Père, il a mené une vie, une existence d'obéissance qui a satisfait son Père puisque Dieu dira par deux fois ceci. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Vis-à-vis de son Père, il a tout accompli. Vis-à-vis de Satan, qui dit non, tu ne pourras pas reprendre ces âmes, je les ai volées, elles m'appartiennent. Je regrette, j'ai payé. Tu n'as plus rien à dire. C'est acquitté, alors nous pouvons lui échapper, venir à Jésus. Qui voudra, cet après-midi, croire dans cette simple parole ? Un mot. Télestai. Tout est accompli. On prie le Seigneur quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi, conscients de ton œuvre extraordinaire sur la croix du calvaire, où tu es mort à cause de nos péchés. Tu es mort pour nous sauver. Tu es mort pour satisfaire à la sainteté de ton Père, mais également satisfaire à la revendication du diable. Et tu as tout payé de ta personne. Pour que nous soyons sauvés. Aussi, dans cet après-midi, je veux dire un mot aux bien-aimés qui sont là, Télestai. Tout est accompli pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient pardonnés, pour qu'ils soient libérés, pour qu'ils soient sanctifiés, purifiés, pour qu'ils connaissent la guérison. Tout est accompli. Dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Merci Seigneur. Je te prie que ces gens-là, ces bien-aimés, ceux qui sont dans ce lieu, puissent te prendre au mot et vivre une expérience avec toi dès maintenant et pour la gloire de ton nom et pour l'amour de notre Dieu. Nous voulons être reconnaissants d'un si grand amour comme nous l'avons chanté il y a quelques instants. Merci, cher Sauveur. Amen.